Donc on continue, ça n'est pas fini, puisque Daniel Borillo va intervenir d'abord et Marika peut venir également à la table si elle veut bien, donc si vous voulez nous rejoindre. On va commencer par une intervention de Daniel Borillo, puisqu'il nous a semblé qu'il était important de rappeler, pour commencer, que ces questions que nous allons aborder sous des angles différents, elles se posent d'abord, à certains égards, comme des questions juridiques. Lorsqu'on parle de manière parfois abstraite de l'ordre symbolique, il ne faut pas oublier qu'il y a une institution sociale qui s'appelle le droit, et c'est donc de cela que va nous parler Daniel Borillo. Daniel Borillo est juriste, il enseigne à Paris 10, et il est chercheur au CERSA, au CNRS, et outre le fait que, pour ma part, j'ai le plaisir de travailler régulièrement avec lui depuis une dizaine d'années, indépendamment donc de cette proximité intellectuelle et politique et amicale, il nous a semblé à tous qu'il serait important qu'il présente la question de ce partage entre parenté et parentalité, non seulement à partir d'une expertise, c'est-à-dire qu'il connaît le droit sur ces questions, mais aussi à partir d'une interrogation critique qui anime son travail. Donc je le remercie en notre nom collectif vivement d'avoir accepté de participer de nouveau. Donc c'est une sorte de compagnon de route de ces aventures. Vous allez comprendre bientôt, si vous ne le saviez pas déjà, que sa participation était un élément important pour ces réflexions. Merci.
Merci, merci beaucoup à la bibliothèque. Merci à Éric Fassin, à Elsa Dorlin, de me donner donc la possibilité de vous parler effectivement de cette différence importante entre la notion des parentés et la notion des parentalités. Je vois que le média et parfois aussi il y a un usage politique pour faire passer l'idée que parler des parentés et parler des parentalités serait la même chose et que toute évolution dans la parentalité implique une évolution dans la parenté. Et en fait, on m'a demandé de parler du droit de la parenté et de la parentalité et j'ai mis un peu comme sous-titre de cette intervention les conflits entre le modèle civiliste et l'idéologie naturaliste dans le sens non seulement de faire référence à la biologie, mais aussi à un ordre qui serait extérieur à la volonté, donc l'idéologie naturaliste de la filiation. La première observation que je dois faire, c'est que le terme parenté et parentalité n'ont pas d'existence juridique. En effet, ces termes parenté et parentalité renvoient à l'ethnologie, à la sociologie de la famille. Ce sont surtout les travaux de Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss, Malinowski, Margaret Mead, Ruth Benedict, qui nous sont familiarisés, nous, juristes, avec ces notions. La parenté, en fait, dessine, de ce point de vue, les règles de descendance s'appliquant à chaque individu, et plus généralement les liens qui unissent l'enfant à un ou deux adultes, nommés père et mère, et la parentalité fait référence à l'éducation des enfants, ainsi qu'aux droits et aux obligations sur ces mêmes enfants, actions pédagogiques, domestiques, éducatives, des soins, d'hébergement, droits de visite, etc. Donc on cherchera en vain ces vocables dans les codes et les lois en France et du point de vue international. Alors, il faudrait plutôt, pour voir clairement quelle est la différence entre parenté et parentalité, traduire ces termes en droit. Donc, la traduction en droit du terme parenté serait filiation, tandis que l'équivalent juridique de la parentalité serait celui des patria potestas, donc qui vient du droit romain, qui était appelé plus tard autorité parentale, ou appelé aujourd'hui par un conseil donc, du droit européen, plutôt responsabilité parentale. Donc. Mais à l'origine, donc, on trouve plutôt en droit patria potestas ou autorité parentale. Alors que la filiation renvoie à un statut, l'autorité parentale fait référence à une fonction. La filiation évoque quelque chose de statique, elle désigne une place, une position déterminée dans une lignée. La responsabilité parentale nous fait penser plutôt à quelque chose de dynamique. En fait, on parle d'exercice de l'autorité parentale, alors qu'on ne parlera jamais d'exercice de la filiation. Ainsi, on peut être déchu de l'autorité parentale. Déchu de l'autorité parentale en droit par mauvais traitement, consommation des drogues ou alcool, défaut de soins, mise en danger de l'enfant. Justement parce qu'il s'agit d'un exercice, mais on ne peut jamais être dépossédé d'une filiation établie. les pires des parents, criminels ou pédophiles, ne cesseront jamais d'être parents. Leur position, leur statut ne change pas, même s'ils perdent la fonction parentale, donc l'autorité parentale. La parenté et la parentalité répondent donc à des règles distinctes en droit. Le Code civil traite de la filiation dans son titre 7 et de l'autorité parentale dans son titre 9. Donc on voit bien que les règles qui gouvernent la parenté ne sont pas du tout les mêmes que celles qui gouvernent la parentalité. Donc commençons par la parenté et en droit donc le droit de la filiation. La filiation en droit est le lien juridique qui crée un rapport d'ascendance familiale entre deux personnes, les désignant comme enfants d'une part, père ou mère d'autre part. Donc filiation proprement dite. En termes anthropologiques, on dirait parenté. Pour les rendre donc créanciers et débiteurs, toutes ces personnes dans cet ordre d'ascendance familiale, créanciers et débiteurs d'obligations progressivement mutuelles. Donc conséquence de la filiation, en termes anthropologiques de la parenté, il y aurait donc un certain nombre d'obligations, donc il y aurait des créanciers et des débiteurs de ces obligations. La filiation confère à chaque personne un état civil déterminé auquel s'attachent d'importants effets juridiques, tant au plan patrimonial, obligations alimentaires, droits de succession, qu'au plan extra-patrimonial, attribution du ou des noms, et aussi l'autorité parentale. Donc vous voyez là, il y a l'autorité parentale découle de cette dimension extra-patrimoniale du droit de la filiation. En droit donc, la parenté est en principe une conséquence de la parenté. La parentalité est en droit en principe une conséquence de la parenté, mais nous les verrons, elles peuvent être parfaitement dissociées. La filiation existe uniquement lorsqu'elle est établie dans les conditions et selon le mode prévu par la loi. Donc il n'y a pas de filiation spontanée en droit. Autrement dit, la filiation est déterminée par la norme juridique et non pas par la loi de la nature. La question de la filiation apparaît d'abord dans les codes civils comme un élément permettant de définir l'appartenance à la nation. Bon, ça, c'est important, puisque je sais qu'on va parler de cela. On voit bien clairement en droit que les premiers articles du Code civil traitant de la filiation, c'est les codes sur, les articles concernant la nationalité. Donc, de l'article 16 à l'article 30, grosso modo, on traite de la filiation, mais dans le sens des appartenances à la nation, non pas appartenance à la famille. Ensuite, l'appartenance à la famille commence à partir de l'article 310. L'enfant, donc, né en France est présumé être français, en principe. Et la femme qui accouche est présumée être la mère, et son conjoint, si elle est mariée, est présumé être le père, à condition que l'enfant soit né dans les 179 premiers jours du mariage. Mais comme toute présomption, elle peut être contredite. La question donc de la filiation est une question d'apparence, d'indice, de certitude, et non pas de vérité. La vérité renvoie plutôt à une dimension scientifique. En effet, laissons de côté, je pense, tous ces articles, de l'article 16 à l'article 30 du Code civil qui traitent de la nationalité, parce que je pense que ça fera l'objet, je pense qu'Éric va parler des questions plutôt liées à la nationalité, mais je voulais faire le lien qui n'est pas simplement intellectuel, il est clairement établi dans les Codes civils. Donc l'article 310.1 du Code civil dit « La filiation est légalement établie dans les conditions prévues au chapitre 2 du présent titre ». Donc on dit clairement « La filiation est établie par la loi ». Par l'effet de la loi, hein, expressément, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'État constatée par un acte de notoriété. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues dans un autre chapitre du Code civil. Donc, comme le souligne François Terret, qui était un professeur de droit de la famille conservateur, enfin, ouvertement conservateur, mais je le dis là, pas pour le critiquer, mais pour montrer comment il y a eu une évolution de toute une pensée conservatrice en droit qui était dans les champs de la notion civiliste de la filiation, qui va après prendre donc une dimension qui a beaucoup plus l'allure d'un droit biologique que d'un droit civil. Donc François Terret disait, à tout âge, le rapport des filiations établi entre un individu et ses auteurs établit quoi ? Un lien qui peut être biologique, affectif, spirituel, que le droit saisit, modèle, copie et parfois déforme. Il s'agit donc d'une question éminemment culturelle, puisque le droit peut même le déformer, et de par ses faits même susceptible d'évoluer avec les temps. Ainsi, la filiation agnatique du droit romain était une parenté exclusivement masculine qui n'avait pas nécessairement une origine physiologique, mais reposait essentiellement sur la volonté du pater familias. Rappelons-nous que le droit canonique interdisait l'adoption et l'ancien droit français établissait par l'accouchement la maternité, la paternité, quant à elle, était réservée à l'homme qui alliait la procréation charnelle et la procréation spirituelle, c'est-à-dire l'époux. L'enfant conçu hors mariage était un bâtard qui n'avait qu'un parent et pas deux. Le code Napoléon réserve ses faveurs à l'enfant légitime, c'est-à-dire celui qui est né au sein d'un couple marié. Les réformes successives, dont je ne vais pas parler du droit romain ou du droit de l'Ancien Régime, enfin, pour montrer justement l'historicité de cette notion de filiation, donc on arrive à la question qui nous intéresse davantage, c'est les réformes successives de la loi depuis 1972 ont mis fin à la distinction entre enfants légitimes et enfants naturels, dont tous les enfants sont désormais traités comme des enfants égaux, soit nés dans les mariages ou en dehors du mariage. La filiation donc est un lien qui se tisse des trois fils principaux, la biologie, la volonté et les temps. D'après ce que je vous dis, selon l'article 310 et les autres articles du Code civil. Donc la filiation par les sangs, un acte de volonté, par exemple l'adoption, une présomption telle la paternité supposée du mari de la mère, ou un fait telle la possession d'État de l'article 311.1 du Code civil. Et je vais vous lire cet article 311.1 du Code civil, il est très édifiant. L'article dit « La possession d'État s'établit par une réunion suffisante des faits qui révèlent les liens de filiation et des parentés entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. » Elle est dite appartenir. Et les principaux de ces faits sont, dit les codes civils, 1. Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on l'a dit issu comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents, donc une apparence. 2. Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation. 3. Que cette personne est reconnue comme leur enfant dans la société et par la famille. 4. Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique. 5. Qu'elle porte le nom de celui ou de ceux dont on l'a dit issu. Vous voyez, on est là dans une dimension clairement, évidemment, et purement culturel, puisque c'est l'apparence des filiations qui compte comme une véritable filiation par la possession d'État, qui est une forme d'établir la filiation du code civil, comme le code établit également la filiation biologique. Comme l'a souligné le doyen Cornu, le droit de la filiation n'est pas seulement un droit de la vérité biologique, c'est aussi un droit de la vie, de l'intérêt de l'enfant, de la paix des familles, des affections, des sentiments moraux, de l'ordre établi du temps qui passe. Fin de citation. Lorsque le droit assimile filiation et engendrement, il le fait avec beaucoup, beaucoup de prudence. En effet, l'accès à la certitude biologique est strictement encadré et limité. L'article 16.11 du Code civil établit, je cite, « En matière civile, l'identification par empreinte génétique ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge, saisie d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit l'obtention ou la suppression des subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressement recueilli. » Donc on pourrait déjà se poser la question sur la conformité de cette disposition de la loi Hortefeux avec l'article 16.1.11 du Code civil. La preuve non scientifique de l'expertise sanguine et des droits, depuis un arrêt du 28 mars 2000, j'ai pu présenter ça dans un autre moment de ce même séminaire, donc de cette décision de la Cour de cassation. Mais cette preuve scientifique par l'expertise sanguine, elle ne peut être rapportée que s'il existe des présomptions, je cite, ou d'indices graves. Pour l'établissement de la filiation, nul besoin donc de différence de sexe ni de vérité biologique. En effet, l'adoption plénière peut être individuelle ou du couple marié. Hein, donc il y aurait là un, si c'est individuel, ou deux parents. L'adoption simple, quant à elle, permet la création d'un lien de filiation à quatre personnes, les parents originaires et les parents adoptifs. Une personne seule peut adopter et la génitrice peut renoncer à la maternité par l'accouchement sous six, donc l'accouchement anonyme, de même que le donneur anonyme de sperme ne deviendra jamais le père de l'enfant dans les cas d'une assistance médicale à la procréation. Voici donc rapidement donc, ce qui est du droit de la filiation, considéré donc généralement comme le droit de la parenté. Passons maintenant au droit de la parentalité. Ça n'existait pas comme tel, donc serait la notion d'autorité parentale. L'article 371-1 du Code civil définit l'autorité parentale comme l'ensemble des droits et des devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale, ce qui n'a toujours pas été le cas. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des pères et mères, doit maintenir les relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Quels sont donc les principaux droits et devoirs qui découlent de l'autorité parentale, autrement dit de la parentalité? Un droit des gardes, droit des devoirs et d'éducation, obligation de veiller à la santé du mineur, droit des corrections, droit et obligation d'administrer les biens du mineur pendant donc, sa minorité. Et l'enfant a également le droit, par exemple, à ne pas s'être séparé de ses frères et sœurs et à avoir des relations avec les parents, père et mère, mais également avec leurs familles respectives, du côté paternel et du côté maternel, s'il y a effectivement établi un lien entre deux personnes. Comme elle est une fonction, la parentalité, l'autorité parentale, comme elle est une fonction, cette autorité parentale peut être déléguée, alors qu'on ne peut jamais déléguer la filiation. La parenté ne peut pas être déléguée, mais la parentalité, oui. Elle peut être déléguée de manière volontaire ou de manière forcée, déléguée à un tiers, membre ou non de la famille. Elle peut être déléguée à un établissement agréé pour le recueil des enfants ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance. La question donc de la parenté des couples de même sexe est une question très intéressante pour nous juristes parce que, justement, là, on voit, dès qu'on parle d'homoparentalité, cette confusion entre homoparenté et homoparentalité. Et donc, je voulais simplement prendre l'exemple de l'homoparenté ou l'homoparentalité pour montrer quels sont les enjeux, justement, terminologiques qui, vont se traduire par des droits spécifiques selon qu'on parle d'homoparenté ou que l'on parle d'homoparentalité. La prééminence de la volonté et l'introduction de la vérité biologique uniquement dans le cadre d'un contentieux semble acquise jusqu'au jour où les homosexuels se sont mis à revendiquer un droit de la filiation. Donc, la vérité biologique était toujours maniée avec énormément de précautions et dans le cadre d'un contentieux spécifique. C'était un cas d'espèce, pas de manière générale. Mais du moment où les homosexuels se sont mis à revendiquer des droits de filiation, lorsqu'ils ou elles souhaitent devenir des parents à part entière, on se met à questionner la logique du droit civil de la filiation. Donc, tout ce que je vous ai dit. C'est effectivement cette revendication de la parenté qui pose problème aujourd'hui et non pas celle de la parentalité qui peut, par ailleurs, comme nous l'avons vu, être exercée par une institution privée ou publique. Donc si elle peut être exercée par une institution privée ou publique, il y a même la délégation parentale pour les compagnons ou la compagne homosexuelle. Nous allons voir la décision de la Cour de cassation dans l'action de la parentalité. Aujourd'hui, ne pose vraiment pas de problème. Enfin, en général, pour les homosexuels qui ont engendré un enfant par les moyens naturels ou l'insémination artisanale, ce qui est malheureusement la seule possible en France, même si cette insémination artisanale est illégale, et la personne qui le fait donc risque même la prison, la question ne se pose pas donc là, puisque les droits octroient la parenté et la parentalité. Donc, si vous vous débrouillez comme homosexuel pour avoir, soit par insémination artisanale, soit par les moyens classiques, avoir des enfants, eh bien là, il n'y a pas de problème. Le problème se pose quand le couple homosexuel demande la création d'une lien de filiation ex nihilo. Concernant le compagnon ou la compagne d'une mère ou un père homosexuel, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour lui accorder une fonction, celle par exemple du coparent. Donc la justice admet même les transferts de l'autorité parentale à la compagne d'une mère lesbienne. Dans la Cour de cassation, dans une décision du 24 février 2006, a statué, je cite, que le Code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule, titulaire de l'autorité parentale, en délègue toute ou partie de l'exercice de cette autorité à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc la justice accepte, la cassation accepte la délégation de l'autorité parentale pour la compagne d'une mère lesbienne. Autrement dit, si l'on est d'accord pour donner des fonctions parentales aux homosexuels, le statut des parents leur est toujours refusé. Pas d'adoption plénière pour les couples de même sexe, pas d'accès à l'assistance médicale à la procréation, pas d'adoption de l'enfant du conjoint, pas de présomption de paternité dans les cas d'un couple de lesbiennes, par exemple, que, dont l'une d'elles pratiquerait une insémination artificielle, pas d'accès aux maternités des substitutions, etc. Alors que jusqu'aux années 1990, l'ensemble des spécialistes du droit de la famille, ça c'est très intéressant, donc, jusqu'à 1990, l'ensemble des spécialistes du droit de la famille s'accordaient sur la dimension éminemment sociale et culturelle de la filiation. Donc on était tous d'accord sur le modèle qu'on appelait les modèles civilistes de la filiation, pour l'opposer au modèle canonique, au modèle naturel, au modèle biologisant, enfin, des Vichy, de l'Ancien Régime, etc. Donc on était tous d'accord sur ce modèle civiliste, jusqu'à 1990. Mais dès qu'une revendication homoparentale commence à émerger sur la scène publique, une redéfinition de type naturaliste commence à voir les jours dans les revues de droit et dans les opinions plus générales. Les prises de possession libérales de plusieurs juristes au cours des années 1980, quant aux conditions d'accès aux techniques de procréation assistée, du moment que commencent ces techniques à se répandre, témoignent de ce que, compte tenu des caractéristiques traditionnelles du droit civil de la filiation, l'imposition d'un modèle parental fondé sur la différence des sexes n'allait pas d'elle-même. Autrement dit, le modèle civiliste permettait l'autonomie du droit à l'heure d'établir un lien de filiation. En sa qualité, les gardes des Sceaux, Robert Badinter, prônait en 1985 une très grande liberté dans la matière, justifiant au regard du droit, notamment la liberté pour une femme seule, de recourir à l'assistance médicale à la procréation et dénonçant, à défaut, une discrimination en raison de la situation matrimoniale ainsi qu'une atteinte à la vie privée. Il s'est également prononcé contre le principe de l'interdiction du recours aux mères porteuses, hein, Badinter en 1985. Son raisonnement était fondé sur le respect des droits fondamentaux et notamment celui, je cite, « essentiel de donner la vie, de remplir plus complètement sa destinée humaine et d'assurer sa descendance ». Fin de citation. Il s'agissait pour lui, je cite, « d'un droit que l'être humain doit se voir reconnaître et garanti par la loi pour pouvoir espérer atteindre l'épanouissement de sa personne qui est la fin de toute organisation sociale dans une démocratie, pas moins ». Fin de citation. C'est le discours dont devant le Conseil de l'Europe, publié par le débat, numéro 36, septembre 1985, pages 4 à 14. Donc je vous invite à lire cet article de Robert Badinter qui est extrêmement intéressant. Et surprenant après pourquoi il a tellement changé entre 85 et 95. De même, un juriste conservateur dont je viens de parler, François Terré, écrivait dans son livre « L'enfant de l'esclave », qui est un livre très intéressant, publié par Flammarion en 1987, je cite, « qu'une interdiction d'accès au PMA, aux procréations médicalement assistées, aux demandeurs d'enfants qui ne sont pas dans une raison thérapeutique serait peu satisfaisante et constituerait une intrusion dans la vie privée contraire à la liberté dans la procréation, fût-ce pour des convenances personnelles. » Fin de citation. Quant à l'argument de la nécessité d'établir une filiation bisexuée, maternelle et paternelle, demeurait l'apanage des juristes catholiques, je dirais même très catholiques, attachés à une vision naturaliste du code canonique. Ce n'était pas du tout le point de vue de la doctrine majoritaire en droit de la famille. Qu'est-ce que s'est-il alors passé entre 1985 et 1995 ? Bon. Il me semble je ne veux pas, ça mériterait quand même une recherche très sérieuse. Je vais vous donner notamment quelques pistes enfin, pour la discussion. Dès mon point de vue, je n'ai pas fait non plus une recherche approfondie, mais enfin, j'ai essayé de comprendre pourquoi cette position assez libérale des juristes droit de la famille change tellement en 10 ans. Donc il y a eu entre-temps, en 1985, la création d'un comité d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Et pour la première fois, on voit l'entrée des représentants des religions, des psychanalystes, des anthropologues dans les débats sur ce qui sera la future loi des bioéthiques. Jusqu'alors, tous les systèmes de filiation étaient une discussion, même parfois technico-juridique, entre juristes civilistes. Et là, on voit qu'en 85, la création du comité d'éthique dit, ce qui semblait quand même pour tout le monde très bien, il faut que les juristes discutent avec les psychanalystes, avec les anthropologues et surtout avec toutes les religions, hein, pour parler de tout ça qui est quand même très important. À mon avis, ça jouait un rôle très important. En 1988, il y a la publication du rapport Brébant, où pour la première fois, on parle, je cite, « d'affirmation de la valeur des structures naturelles de la parenté ». Jamais, sauf en droit canonique, mais on avait vu jamais cette notion de structure naturelle de la parenté. Ça apparaît clairement en 88 avec le rapport Brébin qui va avoir une influence énorme dans la discussion parlementaire de la loi de 94 dite bioéthique. Cette loi donc dite bioéthique est la première qui va définir juridiquement le couple comme l'union d'un homme et d'une femme. Jusqu'à 1994, il n'y avait pas une définition juridique du couple. Il y avait une définition du mariage, mais on ne définissait pas clairement. D'ailleurs, il n'y avait même pas de définition de mariage, tellement c'était évident. Donc, le code civil ne l'avait même pas défini. Donc, la loi de 1994 va définir le couple comme l'union d'un homme et d'une femme. Et en 1995, c'est-à-dire un an plus tard, pour la première fois, le Conseil d'État parle d'absence de référent paternel dans les cas d'une adoption par un célibataire. Donc, ce qui est évident, puisque si la loi admet l'adoption par un individu depuis 1966, ben, il est évident que si c'est un individu qui adopte, ben, il n'y a pas l'autre sexe, il n'y a pas un autre individu. Mais dans jamais les conseils d'État ou la Cassation s'étaient préoccupés de la nécessité de parler de référent de l'autre sexe. D'où ça vient cette préoccupation des juges sur la référence à l'autre sexe? À mon avis, ça vient justement de cette évolution qui commence en 1985. Tous ces processus amènent donc à, de mon point de vue, une sorte de naturalisation du couple hétérosexuel comme fondement de la filiation, une sorte d'ordre symbolique auquel notre droit civil ne peut que se soumettre. Cette hétérosexualisation de la filiation existait dans les sens communs, attachée à la vision sûrement biologique, mais elle était complètement absente du sens juridique attaché à la conception civiliste. Le modèle civiliste octroie un rôle majeur à la volonté au détriment du sang et du biologique. Il permet de masquer l'identité des géniteurs avec l'accouchement sous X, les donneurs anonymes dans une PMA, l'adoption plénière. Il permet la reconnaissance volontaire exprimée a priori par la présomption des paternités du mari et de la mère. Il permet l'établissement d'une filiation légale simplement vis-à-vis de celui ou celle qui s'est comporté, qui avait l'apparence de parent, possession d'État. Notons même que l'ordonnance de 2005 a donné au temps une place plus importante, parce que des 10 ans en droit commun pour contester une filiation, on est passé à 5 ans pour la possession d'État, contre 30 et 10 ans dans les régimes intérieurs. Donc on voit qu'on va favoriser la possession d'État comme l'établissement d'une filiation, et d'une filiation évidemment tout à fait légitime. La difficulté, donc, admettre une parenté exclusivement féminine ou exclusivement masculine, pourtant parfaitement en accord avec le modèle civiliste que je viens de vous présenter, a conduit, volontairement ou involontairement, à une remise en question du modèle civiliste en faveur d'une vision naturaliste, naturalisante, enfin de la filiation, qui arrive même aux tribunaux, puisque l'expertise biologique s'impose actuellement dans les procès des contestations de la paternité, la recherche des origines se revendique socialement, la différence de sexe devient une valeur, qui devrait être même protégée par le droit. Bref, la vérité biologique apparaît comme l'argument dernière, non seulement pour s'opposer à la filiation homoparentale, et partant pour créer une sorte de hiérarchie entre les filiations qui doivent désormais être basées sur la parenté naturelle, c'est-à-dire hétérosexuelle, mais aussi pour désigner les familles monoparentales ou récomposées comme responsables des violences et même des criminalités. Par la presse, et même je viens de lire un article très édifiant dans Le Monde daté d'aujourd'hui, où les désirs d'enfants de la famille homoparentale ou des adoptions internationales et les mêmes désirs qui produisent après la pédophilie, les crimes, etc., les trafics d'enfants. Je vous invite à lire cet article par un anthropologue qui vient de le publier dans Le Monde daté d'aujourd'hui. Pour certains auteurs, dont la loi française est allée trop loin dans la négation de la vérité biologique. On est allé trop loin dans cette négation de la biologie. Ainsi, Agnès Fine propose la reconnaissance de la pluriparentalité, qui, je la cite, n'est pas seulement liée à la place des plus en plus importantes des familles recomposées dans notre société, elle a été aussi portée par la prise en compte croissante de la question identitaire qui s'est exprimée sous la forme revendicative d'un droit de l'enfant à la connaissance de ses origines. Pour les enfants adoptés ou ceux qui sont nés des procréations médicalement assistées. Fin de citation. C'est un article 2002 dans la revue Spirale. Elle regrette, Agnès Fine, que, je cite, contrairement à l'Angleterre et l'Allemagne, la France reste à l'écart du modèle de la open adoption, c'est-à-dire une adoption sans rupture avec les liens de filiation biologique, remise en question donc de la loi de 1966 autorisant l'adoption monoparentale, critique de l'accouchement sous X, interdiction de l'anonymat absolu en cas de don de sperme, demande croissante d'inscription de l'origine biologique dans les actes de naissance en cas d'adoption plénière. On voit bien comment s'est produite cette nouvelle idéologie organisatrice du bouleversement du système civiliste de la filiation, permettant une entrée, fut-elle timide, des homofamies. C'est donc à condition de préserver quelque part la prééminence procréative de l'hétérosexualité que l'homosexualité pourrait, par la suite, demander de s'inscrire dans l'ordre de la parentalité et non pas dans celui de la parenté. La question du biologique reprend ainsi une vigueur renouvelée et bien plus sophistiquée, d'une part en assurant la place de l'hétérosexualité au sein même de l'homoparentalité ou de la pluriparentalité pour reprendre l'expression d'Agnès Fine, qui demande donc la dissolution de l'homoparentalité dans la pluriparentalité, et d'autre part en fondant la norme non pas sur la volonté, mais sur l'immanence des origines, appelées ordre générationnel, ordre symbolique, etc., par ce que j'appelle cette pensée néoconservatrice. Les projets donc de loi concernant l'union civile, on nous a promis que ce serait pour cet automne, ou sur le statut du coparent, prolonge ces refus d'octroyer aux couples homosexuels des véritables droits de filiation, donc des parentés. La différence avec le PACS et l'union civile serait que cette dernière, l'union civile, donnerait aux couples de même sexe des droits relatifs à la parentalité. Donc on ouvrirait l'autorité parentale, ou évidemment la délégation sous d'autres formes, aux coparents. Comme à l'époque du Pax, souvenons-nous que pour ne pas parler des couples, on parlait de duo, des fratries et même des fratries rurales, l'imagination des juristes est toujours prospère. On propose ainsi aujourd'hui de créer des liens distincts de la filiation. Je vous donne les noms proposés par mes collègues aujourd'hui dans les revues juridiques. On dit il faudrait appeler ça, cette relation avec les enfants, les familles homoparentales et l'enfant, l'alumni. Alumni. Les fosterages. Il faut quand même savoir qu'en droit, originairement, le fosterage était placé des enfants comme des domestiques. Non, mais on reprend quand même cette expression de l'ancien régime, fosterage. Bon. Le parrainage, filiation spirituelle par les baptêmes. Il s'agit donc de diluer la question de l'homoparentalité dans celle de la famille recomposée ou dans celle de la pluriparentalité, comme le proposaient déjà les rapports Irène Théry en 1998 ou le rapport de Quévert de Fossé en 1999. Il s'agissait là dans des rapports au gouvernement socialiste, donc on voit bien que ce n'est pas une question de gauche et de droite. Ou comme le propose actuellement le projet des lois d'union civile. Nous ne sommes pas dans le registre donc de l'égalité, il s'agit d'une sorte là de pax de la filiation pour les couples de même sexe. Pax de la filiation pour se donner quelques droits issus de la parentalité, mais en tout cas pour éviter la parenté. Comme hier, pour bien différencier les mariages du pax, les opposants au droit de la filiation pour les couples homosexuels suggèrent donc ces noms différents et beaucoup de juristes disent aujourd'hui on devrait appeler ça affiliation au lieu de filiation. Affiliation. Voici comment dans les nouvelles hiérarchies ces profils. Les juristes sont certes moins subtils que certains sociologues, et je vais finir avec ça, mais ils sont toutefois, ou anthropologues, le mérite d'être bien plus clairs. Alors je vais vous lire dans ce qu'il propose aujourd'hui un de mes collègues, donc le 3 juillet 2007, publié dans les Petites Affiches, donc une grande revue juridique. Je cite. « Cette résurrection du fosterage, renommée affiliation, se distingue de la filiation qui doit être réservée au projet d'un homme et d'une femme. On la forme compréhensible par tous. » La filiation est proche de la filiation sans se confondre avec elle. Il n'y a pas l'ambiguïté qui règne entre la parenté et la parentalité. Au fond, la filiation demeurerait le seul lien de droit insécable, tandis que la filiation pourrait être résiliée pour des causes appréciées par les juges. Séparation du parent et de l'affiliant, grave mésentente entre l'affiliant et l'affilié, des plus de 13 ans, etc. Dans une telle perspective, l'affiliation constituerait une tierce voie distante de l'adoption simple et de la délégation de l'autorité parentale, parfois détournée de leur but par les juges de fond ou proposée par la réforme par la doctrine. Enfin, l'affiliation serait indifféremment proposer au partenaire d'un parent qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel, prenant ainsi en considération l'argument de la discrimination. Fin de citation. L'ouverture donc de la parentalité au couple de même sexe ne résout pas, vous voyez bien, la question de l'égalité dans la parenté, pour tous les arguments que je vous ai donnés. Mais la question de l'égalité est celle de la liberté et surtout de la volonté. Mais ces questions de la liberté et de la volonté sont passées au deuxième plan au profit de l'identité des origines, de la certitude biologique, de la vérité de l'ADN et de l'hétérosexualité comme fondement de la filiation. Tout cela prouve donc qu'on est dans un échec de ce modèle que je défends, qui serait le modèle civiliste de la filiation. Merci beaucoup.
Merci.